Shema Israël, Audi Israël, Écoute Israël, Ensun Israël, Escute Israël.
Rencontre mensuelle avec notre évêque, Monseigneur Marc Ayé, évêque de Bayonne, Lescar et Oloron. En ce mois de février et en pleine semaine de début de carême, nous sommes très heureux d'être en compagnie de notre évêque, Monseigneur Marc Ayé. Bonjour.
Bonjour.
Également avec Olivier Drapé, délégué épiscopal à l'information et à la communication.
Bonjour.
Alors nous vous retrouvons ce mois de février après une absence pendant le mois de janvier, un mois de janvier qui a été riche en activités et pour notre évêque et également pour notre diocèse, Olivier Drapé.
Oui, on pourrait effectivement, Monseigneur Ayé, peut-être commencer par toute première visite pastorale que vous avez effectuée à la fin du mois de janvier, dans le diocèse, donc naturellement, avec une première question qui serait tout simplement de vous demander en quoi consiste tout simplement une visite pastorale et d'autre part, quelle a été concrètement cette visite pastorale qui était à Mourinx dans le Béarn, mais en quoi cette visite pastorale vous a-t-elle marqué, qui avez-vous rencontré et qu'en retenez-vous?
D'abord, si vous voulez, le droit de l'Église fait obligation aux évêques de visiter leur diocèse en entier tous les 5 ans. Ça veut dire que, sachant qu'il y a 69 paroisses dans le diocèse, il me faudra un tout petit peu plus de 5 ans, je pense, pour assurer la visite pastorale, paroisse par paroisse, du diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron, sachant que je voudrais pouvoir consacrer au moins 5 jours par mois à une paroisse. Et j'ai donc programmé, pour cette année 2010, 10 visites pastorales réparties entre le Pays Basque et le Béarn dans chacune des zones territoriales de notre diocèse. La visite pastorale est un moment important du ministère épiscopal car elle lui permet d'aller vraiment à la rencontre sur le terrain de la communauté chrétienne. Non seulement de la communauté chrétienne sous toutes ses dimensions, à la fois les prêtres, les laïcs en responsabilité ecclésiale qui collaborent au ministère des prêtres de plus près, mais aussi la communauté en son entier, dans toutes ses composantes, mais aussi de prendre la mesure du terrain humain dans lequel la communauté chrétienne doit déployer sa vie et accomplir sa mission. Et donc aller à la rencontre aussi de bien d'autres acteurs de la vie sociale, professionnelle, associative, politique même, du territoire dans lequel se trouve la paroisse. Pour moi, c'est une grande joie parce que jusqu'à présent, j'ai fait une première reconnaissance du diocèse depuis que je suis arrivé à Bayonne il y a un peu plus d'un an. Et il me faut maintenant entrer, j'allais dire, dans le vif du sujet et vraiment passer du temps dans chacune de ces paroisses pour vraiment écouter, reconnaître la vitalité de chacune de ces communautés, entendre leurs convictions, leurs difficultés pour accomplir leur mission, les interrogations et les inquiétudes qui sont les leurs, pouvoir apporter une parole d'éclaircissement, une parole d'encouragement, donner une impulsion aussi pour la mission. Alors nous avons, pour cette période 2010-2015, c'est-à-dire les 5 ans qui viennent, proposé donc de prendre comme thème de la visite pastorale du diocèse le thème de la première annonce qui nous intéresse tous, et j'allais dire qui nous inquiète tous, tant nous sommes bien convaincus que le monde d'aujourd'hui a besoin d'une première annonce ou d'une nouvelle première annonce de l'Évangile. Et qui sera un petit peu le thème conducteur de la visite pastorale, avec un slogan consacré pour annoncer l'Évangile, consacré au pluriel, parce que nous sommes tous consacrés, qui par le baptême et la confirmation, qui par le sacrement de l'ordre, pour annoncer l'Évangile, puisque l'Église existe pour évangéliser. Vous reconnaîtrez dans ce slogan la parole de Jésus revenant à Nazareth, sa patrie, où il s'applique dans la synagogue de Nazareth l'oracle du prophète Isaïe, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a consacré par l'onction pour annoncer l'Évangile aux pauvres. » J'ai choisi comme première paroisse à visiter la paroisse Notre-Dame de Pentecôte de Mourinx. Je pense que c'était significatif parce que le bassin de lac dans lequel se trouve cette paroisse Notre-Dame de Pentecôte de Mourinx a été profondément éprouvé en particulier l'an dernier, avec la fermeture de la Célanèse, donc la suppression quand même de 350 emplois directs, mais aussi une inquiétude qui pèse encore sur bien des emplois induits de toutes ces entreprises sous-traitantes qui fonctionnaient dans l'orbite finalement de la Célanèse. Donc avec beaucoup de souffrances économiques et sociales qui sont assez emblématiques de la crise qui s'est abattue sur le monde ces derniers mois. Cette visite a été une grande joie parce que j'ai pu rencontrer en effet toutes les composantes de la communauté, apprécier la qualité de l'engagement des laïcs en responsabilité qui, autour du prêtre, participent à l'animation de la communauté chrétienne. Mais aussi, j'ai pu rencontrer les acteurs de la vie sociale. J'ai eu une rencontre très intéressante avec les représentants, toute organisation confondue, des syndicats du complexe industriel du bassin de Lac, les élus de la communauté de communes de Mourinx, mais aussi les représentants du monde agricole, les représentants des associations qui constituent la vie associative très riche de cette ville de Mourinx. Et j'ai pu voir combien il y avait une certaine osmose entre la communauté chrétienne et la communauté humaine qui est aidée depuis des décennies par une présence très forte à la vie des hommes. Il y a une commission vie des hommes qui est très bien installée dans ce doyenné du bassin de Lac. La présence aussi d'un prêtre ouvrier, l'abbé Raymond Méroni, qui a certainement facilité cette communication, collaboration entre la communauté chrétienne et le monde du travail en particulier.
Vous avez eu le sentiment, Monseigneur, que de la part des représentants de la société civile, des élus, des syndicalistes que vous avez pu rencontrer et qui ne sont pas nécessairement chrétiens, il y avait une attente particulière vis-à-vis de l'Église ou de l'homme d'Église que vous êtes ?
Alors j'ai certainement en effet éprouvé cet accueil qui m'a été réservé. D'abord moi j'allais à l'écoute, j'allais pour écouter, pour prendre la mesure du terrain social, économique, politique, culturel même. Mais j'étais frappé de voir que non seulement ils ont pu m'apporter beaucoup d'informations pour comprendre ce terrain un peu difficile dans lequel nous avons à accomplir notre mission aujourd'hui, parce que dans cette région, mais en même temps j'ai été bien agréablement surpris de voir que tous attendent aussi une parole de l'Église, ne sont pas indifférents à ce que l'Église peut avoir apporté comme message, non seulement au niveau de la stricte justice, car il s'agit souvent de problèmes de justice sociale, mais aussi au niveau de son message, du cœur de son message, d'espérance, et je dirais de son message de sens, persuadé et inquiet autant que nous de cette crise du sens qui afflige quand même pas mal la société d'aujourd'hui, en particulier les jeunes.
Pouvez-vous éventuellement nous dire un mot de la prochaine visite pastorale que vous effectuerez dans le diocèse ?
Alors, puisque j'ai commencé dans le Béarn, je continuerai dans le Pays Basque, et ce sera même dans le Pays Basque intérieur, puisque la prochaine visite pastorale du mois de février, donc, aura lieu à Tardets, en Haute-Soule, voyez ? Et puis ensuite, en mars, je retournerai dans le Béarn et je visiterai la paroisse du Christ Sauveur de Pau.
Il y a le moment de la visite pastorale, proprement dit, mais souvent, ce qui est important, c'est l'avant et l'après, c'est-à-dire la préparation, qui prépare vos visites pastorales, et l'après, qu'est-ce qui va se passer pour ces paroisses qui auront été visitées ? Est-ce qu'il y aura des comptes rendus et quelle suite allez-vous donner ?
Alors, chaque curé reçoit une lettre que je lui adresse avec un petit document qui explique un peu le sens de la visite pastorale, puis aussi qui donne un peu d'éléments pour justement préparer cette visite en amont avec les paroissiens. Donc on demande à chaque curé de constituer autour de lui un petit comité préparatoire à la visite auquel participera le vicaire épiscopal de zone ou le vicaire général et qui consistera déjà à préparer un petit document très bref pour donner un peu quelques éléments chiffrés à la fois sur la vie de la communauté chrétienne et aussi sur la vie sociale et civile, disons, de ce territoire. Et puis ensuite, de préparer un programme qui comprenne un certain nombre d'éléments. D'abord, un élément de reconnaissance des personnes et des groupes qui participent à la mission de l'Église dans cette paroisse, qu'il me faut absolument rencontrer. Aussi, quelques moments de célébration en particulier la messe du dimanche, qui clôture la visite et qui est vraiment la source et le sommet de la vie de la mission de l'Église et donc aussi de la visite, où toute la communauté est rassemblée. Un certain nombre de rencontres aussi qui doivent être prévues avec les élus, les acteurs, encore une fois, de la vie sociale et professionnelle du territoire. Qu'on compte aussi des temps où je pourrai rencontrer des malades que je vais aller visiter. Aussi des temps de permanence au presbytère pour accueillir celui et ceux qui veulent voir et rencontrer leur évêque. Et puis après avoir beaucoup écouté, parce que je crois que c'est vraiment un temps d'écoute, hein, bien sûr qu'à chaque fois on me demande une parole. Il faut dire qu'à Mourinx, ils avaient commencé depuis le début de l'année une assemblée paroissiale qui essayait de faire réfléchir tous les paroissiens en assemblée et en groupe de quartier même sur l'avenir de la communauté chrétienne, hein, sur l'avenir de l'Église à Mourinx. Et donc ils m'ont présenté un certain nombre de résultats de cette réflexion, un certain nombre de questions aussi, d'interrogations. Et j'ai pu déjà apporter une première grande réponse à travers l'homélie du dimanche. Et ensuite, j'écris une lettre que j'adresse à la communauté, voyez. J'ai visité une communauté, et donc j'écris une lettre pour apporter une parole qui reprend un peu les éléments de la visite et qui donne peut-être une petite impulsion pour poursuivre la réflexion, et en tout cas orienter un peu plus encore les efforts dans le sens de la mission, et en particulier, puisque c'est le thème de la visite, de la première nouvelle ou de la nouvelle première annonce.
Ce mercredi 17 février, c'est l'entrée en carême pour tous les chrétiens, pour tous les catholiques. Alors bien sûr, le carême sera jalonné de temps fort, de moments forts à vivre en église, que ce soit en paroisse ou en diocèse. Vous célébrerez la messe du mercredi décembre à 19h à la cathédrale Sainte-Marie de Bayonne. Et je crois que le premier dimanche de carême, vous aurez également une messe à la cathédrale, avec une intention très particulière.
Alors en effet, nous avons été tous sous le choc de ce séisme qui a été dramatique en Haïti, qui a d'ailleurs sollicité ou suscité un très grand courant de solidarité, hein, par le monde entier, et en particulier chez les Français, hein, et en particulier chez nos diocésains. Des collectes ont été organisées, une collecte avait été organisée tout un dimanche à la cathédrale de Bayonne pour s'associer à ce mouvement de solidarité. Beaucoup n'ont pas attendu évidemment tant d'organismes, en particulier le Secours catholique qui s'est beaucoup mobilisé, y compris dans notre département, pour venir en aide à tous les sinistrés de ce séisme en Haïti. Il me semble qu'après ce moment émotionnel qui a suscité cette générosité évidente chez beaucoup d'hommes et de femmes, et pas seulement des chrétiens, il me semble qu'il est important de ne pas trop laisser retomber l'émotion et de ne pas oublier Haïti. Et c'est pourquoi j'ai pensé qu'il serait utile, le soir du premier dimanche de carême, en entrant dans ce temps qui est un temps de prière, de jeûne et d'aumône, et donc qui est un temps aussi de partage et de solidarité, de ne pas oublier, en particulier dans la prière, la reconstruction de ce pays, et de s'associer d'ailleurs à la prière d'un peuple qui est profondément religieux et qui sait trouver dans sa foi un ressort intérieur pour vivre et surmonter, si tant est qu'il soit possible, de surmonter une telle épreuve, ce qui est arrivé, qui a blessé évidemment tout un pays, et en particulier beaucoup de familles. Et donc le soir du premier dimanche de carême, à la cathédrale de Bayonne, je célébrerai la messe pour l'entrée solennelle en carême en particulier, à l'intention d'Haïti.
Le premier dimanche de carême, le matin, vous serez également dans une paroisse à Pau.
Oui, parce que le temps du carême est l'ultime étape de la préparation au baptême, à la confirmation et à la première communion de nos catéchumènes adultes qui seront présentés le premier dimanche de carême à l'évêque que je suis, donc cette année à la paroisse Saint-Jacques de Pau, dans la paroisse plus exactement du Christ Sauveur de Pau, à l'église Saint-Jacques, au cours de la célébration que l'on appelle la célébration de l'appel décisif, c'est-à-dire que ceux qui vont effectivement, au terme du carême, lors de la vigile pascale, être baptisés, confirmés, faire leur première communion, eh bien seront appelés d'une manière décisive par un rite particulier qui aura lieu au cours de la messe, donc de ce premier dimanche de carême, comme chaque année, hein, mais cette année donc à l'église Saint-Jacques de Pau.
Monseigneur, s'il fallait rappeler en quelques mots finalement le sens du carême tout simplement et l'esprit dans lequel vous souhaiteriez que les fidèles du diocèse le vivent, que nous diriez-vous ?
Alors écoutez, le carême, bien sûr que comme on le dit, c'est comme une retraite en église qui nous invite à nous rappeler les exigences de perfection à laquelle nous avons été appelés par la grâce de notre baptême. Hein. C'est pourquoi c'est tout à fait en lien avec le catéchuménat des adultes. Je dirais que le carême, pour les baptisés que nous sommes, est comme une sorte de nouveau catéchuménat dans lequel nous essayons d'accompagner les catéchumènes dans cet ultime effort de préparation hein, à la grâce du baptême, de conversion et d'ouverture de leur cœur. Eh bien, c'est pour nous le moment aussi de les accompagner en entendant une nouvelle fois cet appel de Jésus à la conversion. Hein. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile, c'est la parole souvent que l'on utilise au moment où l'on impose les cendres pour entrer dans le carême. Les cendres qui sont le symbole évidemment de la pénitence dans la Bible, qui rappelle en effet que le péché est porteur de mort, et la mort qui nous fera retourner à la poussière, comme dit Dieu dans le livre de la Genèse, et que nous sommes invités justement à nous convertir de notre péché, de nous détourner du péché, et de nous tourner résolument vers Dieu et vers notre prochain, car l'amour de Dieu et l'amour du prochain sont indissociables, et nous essaierons de signifier tout cela à travers des efforts renouvelés de prière, mais aussi de jeûne, pour nous détourner un petit peu de nous-mêmes, et de notre égoïsme, et puis finalement de l'aumône qui nous permettra de nous tourner davantage vers les autres.
Pour la seconde fois, lors de cette année pastorale, vous proposerez une nuit de la miséricorde. Il y en a déjà eu une pendant le temps de l'Avent, l'autre sera célébrée je crois le 17 mars dans les cathédrales du diocèse. Alors pouvez-vous nous rappeler le principe de cette nuit de la miséricorde, à quoi ça sert et qui est invité à y participer ?
Alors c'est une initiative qui est venue des recteurs et curés des cathédrales de notre diocèse lorsque nous avons préparé l'année sacerdotale dans laquelle nous sommes bien entrés maintenant. Nous avons demandé qu'il y ait des lieux référencés où il soit possible de faire une démarche personnelle ou communautaire de prière à l'occasion de cette année sacerdotale, où nous prions bien sûr pour les vocations sacerdotales et où nous prions aussi pour les prêtres et où nous remercions le Seigneur aussi hein, pour les prêtres que nous avons croisés sur notre route depuis que notre plus tendre enfance. Et pour les soutenir aussi dans leur mission, qui est souvent difficile dans un état de vie qui n'est pas toujours compris hein, par le monde d'aujourd'hui. Et lorsque nous avons proposé aux curés et recteurs des cathédrales de proposer une démarche dans leur cathédrale, eh bien, leur idée a été d'organiser pendant l'Avent et pendant le Carême ce qu'ils ont appelé des nuits de la miséricorde, c'est-à-dire de proposer de manière nocturne, depuis le début de la soirée jusque pendant la nuit, vers 1h ou 2h du matin, de proposer à tous ceux qui le veulent de venir participer à une veillée axée sur la miséricorde du Seigneur, avec possibilité de rencontrer un prêtre et ainsi de vivre le sacrement de la pénitence et de la réconciliation, dans le calme du soir, avec le temps devant soi, de pouvoir tranquillement parler avec un prêtre et recourir d'une manière ordinaire au sacrement de pénitence avec confession et absolution personnelle.
Alors, savez-vous, par exemple, à Bayonne, combien de personnes ont participé pour le temps de l'Avent ?
Alors, je le sais parce que j'y ai participé. Nous étions à peu près 7 ou 8 prêtres à disposition dans la cathédrale. Et je crois qu'à peu près 80-90 personnes ont pu fréquenter cette nuit de la miséricorde, à peu près autant à Oloron et à l'Escar. Finalement, vous voyez des chiffres qui ne sont pas énormes, mais qui montrent que ça a répondu quand même véritablement à une attente. C'est vrai que c'est un moment de paix que la nuit, un moment de tranquillité et où il est peut-être plus facile encore de recourir à la miséricorde de Dieu.
Chaque année, pour le temps du carême, le pape Benoît XVI propose également un message. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu la teneur de son exhortation de carême à tous les catholiques du monde ?
Alors il y a en effet un très beau message que le Saint-Père a adressé pour ce carême 2010 qui est centré sur la justice de Dieu. Et au fond, il nous indique qu'au-delà de la justice considérée comme une vertu qui nous permet de rendre à autrui ce qui lui est dû et qui reste toujours d'actualité. Et en cela, j'insiste sur toutes les actions de solidarité que nous aurons à promouvoir pendant le carême. Par exemple, j'ai pris l'initiative cette année de lancer de manière officielle la campagne de carême du CCFD par une messe qui sera célébrée le samedi 6 mars, veille du deuxième dimanche de carême, à l'église Saint-Vincent de Paul de la paroisse Sainte-Marie du Hameau de Pau. Mais le Saint-Père nous invite à comprendre que la source de toute injustice qu'il nous faut combattre par toutes ces actions de solidarité, de générosité, et très particulièrement pendant le carême, la source de l'injustice vient du cœur de l'homme et vient du péché. Et que finalement, ce qu'il faut rendre à l'homme, c'est quelque chose qui dépasse infiniment le cadre de l'égalité prévu par la loi et qui d'ailleurs n'est pas assuré par la loi, dit le Saint-Père, mais que le Christ seul peut donner par sa grâce, car lui seul est sauveur. Et au fond, il a axé ce message du carême en disant « l'injustice dans le monde vient du péché de l'homme » et invitant finalement les chrétiens à rechercher cette libération intérieure, cette guérison intérieure que seul le Christ, par sa grâce, peut nous apporter. Source ensuite d'un comportement plus juste dans la société. Dans ce sens, peut-être que vous savez que le Saint-Père, le 14 février, a voulu manifester de manière concrète cette proximité de l'Église aux plus éprouvés par la pauvreté, ceux qui sont en situation de précarité ou d'exclusion, en se mettant spirituellement, dit-il, à genoux devant les pauvres et en répondant à l'invitation de tel ou tel organisme caritatif, en particulier la Caritas, c'est-à-dire le Secours catholique chez nous, à Rome, où il ira visiter justement des personnes en situation de précarité, d'exclusion. Et il demande que tous les évêques puissent s'associer à ce geste, ce que je ferai moi-même le mercredi des cendres, le 17 février donc, en allant accueillir à la permanence du Secours catholique de Bayonne les sans-domicile fixe.
Monseigneur, l'évangélisation ou la nouvelle évangélisation, qui est votre préoccupation principale, passe également par une présence forte des chrétiens, non seulement dans l'Église, mais dans la société. Et dans cet esprit, vous avez suscité récemment la création de nouveaux organismes diocésains, notamment l'Académie diocésaine pour la vie, et puis plus récemment un observatoire sociopolitique. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Alors en effet, l'Académie diocésaine pour la vie, dont j'ai déjà annoncé depuis un certain temps la naissance dans notre diocèse, qui s'est constituée d'abord autour d'un petit conseil dit fondateur, un petit groupe de laïcs et de prêtres, avec lesquels nous avons défini une charte qui est tirée principalement de la grande encyclique de Jean-Paul II, Evangelium Vitae, sur l'évangile de la vie, dont nous célébrerons d'ailleurs le 25 mars prochain le 15e anniversaire, et qui consiste à définir un certain nombre de domaines d'action et un certain nombre de moyens d'action pour promouvoir une culture de la vie. Évidemment qu'une académie diocésaine pour la vie ne veut pas se substituer au pastoral, aux services, aux associations qui sont appelées à promouvoir par leur propre charisme cette culture de la vie, mais veut venir surtout en soutien, en aide, en apportant en particulier peut-être une expertise plus scientifique qui réponde aux défis et aux enjeux d'aujourd'hui qui sont souvent inédits étant donné les progrès des technosciences, surtout lorsqu'elles peuvent s'appliquer au commencement ou à la fin de la vie. C'est pourquoi l'Académie diocésaine pour la vie, c'est le titre académique qui peut-être nous le dit, est fondé sur un comité scientifique qui est composé pour l'instant de 22 personnes, avec une parité d'ailleurs de 11 hommes et de 11 femmes. Et j'estime qu'il ferait beau voir promouvoir une culture de la vie sans l'aide tout à fait spécifique de la femme, qui est celle par excellence qui donne la vie et qui porte la vie. Composé donc de médecins, de professionnels de la santé, que ce soit des médecins, spécialistes ou généralistes, des sages-femmes, des infirmières, des conseillers ou conseillères conjugales, mais aussi des philosophes, des théologiens, moralistes, évidemment, des personnes qui ont une expertise dans le domaine de l'accompagnement des personnes âgées en fin de vie ou des malades en fin de vie. Je pense par exemple à la supérieure de la Maison des Petites Sœurs des Pauvres de Billère, qui fait partie aussi de ce comité scientifique, mais aussi des pédagogues. Je pense en particulier à Jean-Marc Capaule, qui est le directeur diocésain de l'enseignement catholique, pour pouvoir nous aider dans tous ces domaines que sont celui de la famille, mais aussi de l'éducation affective et sexuelle des jeunes, que ce soit le domaine de la qualité de la vie, de la santé, mais aussi de l'environnement, donc de l'écologie, que ce soit évidemment les questions brûlantes autour de la bioéthique, qui nous intéresse encore particulièrement aujourd'hui, puisque ça fait partie de l'actualité, puisque très prochainement, le Parlement devrait plancher sur la fameuse révision des lois de bioéthique.
Environ 250 personnes ont participé à la première soirée proposée par l'Observatoire sociopolitique autour de la laïcité positive. Comment vous avez vécu, vous, cette soirée et quel est le but que vous voulez donner donc à cet Observatoire sociopolitique ou les buts que vous voulez donner à ce nouvel organisme ?
Voilà, alors donc en effet, nous avons aussi lancé, très modestement, cette... Observatoire sociopolitique diocésain, par cette grande conférence qui a rassemblé à peu près 300 personnes, je crois, dans ce grand amphi de la faculté de droit de Bayonne. Et nous avions pris ce thème des opportunités de la laïcité positive pour prendre acte du contexte de la laïcité, tel qu'il a quand même évolué à travers l'histoire, vers cette laïcité positive, comme l'a qualifié le président de la République dans un discours au Latran en 2007, qu'il a réemployé à nouveau en accueillant le Saint-Père le 12 septembre 2008 à l'Élysée lors de son voyage en France, et qui montre aussi cette collaboration saine qui se cherche en effet entre l'Église et la société civile de manière large et en particulier l'État, dans le contexte évidemment de la loi de séparation des Églises et de l'État de 1905. Et nous avions voulu prendre ce thème justement pour voir comment dans ce contexte de laïcité, les chrétiens, et l'Église institution, mais les chrétiens, chacun dans son lieu de vie et dans son milieu social ou professionnel, avaient une part de responsabilité à prendre dans la construction finalement de la société juste et fraternelle à laquelle je pense que tous nos contemporains aspirent. Et nous sommes appelés, nous aussi, en tant que chrétiens, à partir de notre foi, à être solidaires des angoisses et des détresses, des joies et des espérances, comme disait le Concile Vatican II, de nos contemporains, en particulier des plus pauvres, et donc de participer aussi à la recherche d'un ordre social juste qui définit ce qu'est la politique et de contribuer aussi à la recherche du bien commun d'une manière tout à fait spécifique. C'était une manière d'encourager, et c'est le but de l'Observatoire sociopolitique, les fidèles de l'Église catholique à s'engager dans la cité et à s'engager dans la politique.
Cette notion de laïcité est assez confuse, je pense, dans l'esprit de beaucoup de Français. On l'a vu à l'occasion du débat sur l'identité nationale. Il a été question, effectivement, de ce problème de la laïcité. Et finalement, on rencontre beaucoup de définitions différentes, voire contradictoires de la laïcité. Alors, quelle définition chrétienne pourrait-on donner de la laïcité ?
Alors, si vous voulez, si on part de la définition du président de la République devant le Saint-Père, quand il a employé le qualificatif de positif ajouté au mot laïcité, sans doute parce que quelquefois la laïcité dans l'histoire, c'était un peu d'ailleurs l'objet de la conférence qui était donnée par ce professeur Fauquier, qui est un historien agrégé et qui a voulu nous montrer dans l'histoire depuis la Révolution française de la laïcité. Quelquefois la laïcité a été comprise, surtout en théorie plus que dans les faits, en tout cas dans les dernières décennies, comme une sorte de rejet de tout ce qui est religion dans le domaine privé, à l'extérieur de la vie sociale, et qui peut donner des formes extrêmes qu'on appellera le laïcisme, si vous voulez. Et c'est pourquoi le président de la République avait ajouté le mot « positive » pour dire que la laïcité peut être extrêmement positive et qu'elle est positive dans la mesure où elle ne rejette pas le facteur religieux ou le fait religieux en dehors de la vie sociale et politique. Mais on peut dire que la laïcité trouve un fondement dans l'Évangile. Vous savez, lorsque Jésus répond à ses détracteurs, « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu », où il distingue en effet la sphère proprement politique, qui possède une juste autonomie, hein, même si elle est relative par rapport au Créateur, bien sûr, comme l'a rappelé le Concile Vatican II dans la Constitution sur l'Église dans le monde de ce temps, Gaudium et Spes, donc qui distingue la sphère proprement politique de la sphère religieuse. Et en même temps, nous nous disons que cette distinction ne veut pas dire opposition, qu'elle veut dire collaboration saine, et d'ailleurs on le voit bien dans la société de manière très pratique, et je le vois chaque fois que je visite une paroisse, la présence des élus, le désir des élus de rencontrer l'évêque, par exemple, est bien une preuve que cette collaboration est recherchée, et que le fait religieux qui marque quand même tout homme, finalement, hein, presque tous ont une religion, hein, si l'on suit les instituts de sondage. Il y a 57% de Français qui se déclarent encore catholiques, même s'ils ne sont pas tous des pratiquants réguliers, comme l'on dit. Ça veut dire que le fait religieux fait partie de la vie sociale. Et que pour nous, la foi, dans la mesure où elle assume toute la personne humaine, en assume aussi le caractère public et social. Et ce que nous dirons, c'est que cette distinction entre la sphère politique et la sphère religieuse, qui n'empêche pas une saine collaboration pour la construction précisément d'un ordre social juste, même si l'Église vise une finalité qui dépasse infiniment le bien commun terrestre, eh bien nous dirons-nous que la sphère politique ou temporelle ne peut pas s'affranchir pour autant de la morale et qu'il y a des droits fondamentaux qui transcendent et qui précèdent d'une certaine manière tout principe d'organisation sociale et toute loi civile.
Alors, Monseigneur Haillé, après avoir parlé de deux organismes nouveaux, nous allons parler de quelque chose qui existe dans l'Église depuis bien longtemps, c'est le denier de l'Église, appelé autrefois le denier du culte. Alors, Monseigneur Haillé, ce qui est nouveau, c'est que vous avez convoqué la presse le 8 février pour en parler, selon vos termes, en toute transparence.
Alors, nous avons en effet voulu lancer cette campagne du denier de l'Église 2010, d'abord en rassemblant pour la première fois les curés et tous ces bénévoles qui, dans les paroisses, accomplissent cette collecte finalement auprès des paroissiens et des fidèles pratiquants réguliers en particulier du denier de l'Église. Et donc je voulais particulièrement remercier tous ces bénévoles pour leur dévouement, leur savoir-faire, pour fidéliser ces donateurs, sachant que nous avons besoin de ces donateurs et que plus que jamais, la campagne de l'Église en 2010 comme en 2009 et comme les années précédentes repose sur ces bénévoles des paroisses. Et en même temps, nous avons voulu communiquer par voie de presse, donc en convoquant la presse, en ce jour de lancement de la campagne du denier de l'Église 2010, pour appeler d'une certaine manière l'attention des catholiques, pas seulement de ceux que nous rencontrons dans nos églises, mais encore une fois tous ces catholiques pratiquants occasionnels qui se reconnaissent comme catholiques, qui savent recourir à des moments importants de leur vie au service de l'Église, même s'ils ne sont pas tous les dimanches dans notre Église, tant s'en faut. Pour les intéresser à la vie de l'Église, en dissipant un certain nombre de malentendus et d'idées reçues, selon lesquelles on pense que l'Église est riche. Bah, évidemment que nous voulions dire en toute transparence, chiffres à la clé, que l'Église n'est pas riche, que son patrimoine immobilier est beaucoup plus une charge qu'un luxe, et il consiste dans le strict nécessaire pour accomplir localement la mission d'annoncer l'Évangile, de distribuer les sacrements et de servir finalement les fidèles, et d'une manière très large, ces 57% de Français qui se déclarent encore catholiques devant les instituts de sondage. Nous avons voulu dire aussi, contre une idée reçue peut-être aussi, que l'Église, depuis la loi de séparation des Églises et de l'État, ne bénéficie d'aucune subvention, ni de l'Église, ni du Vatican, bien entendu, et qu'elle ne vit que des dons de ses fidèles. Alors on voulait appeler à la générosité en enregistrant, comme dans tous les diocèses de France, une légère baisse dans le produit global du denier de l'Église, et surtout une diminution du nombre de donateurs, hein, avec le vieillissement de la population, et en particulier des pratiquants, et la disparition des donateurs traditionnels. Hein. Et c'est pourquoi nous voulons communiquer pour appeler de nouveaux donateurs, et c'est pourquoi nous sommes aidés d'une agence de communication professionnelle, Via Magnificat, qui travaille depuis des années avec beaucoup d'autres diocèses ou congrégations religieuses ou associations de fidèles, pour optimiser cette collecte de fonds et donner à nos bénévoles et à nos curés des outils peut-être plus performants, précisément pour toucher de nouveaux donateurs dans les viviers potentiels qui n'ont pas encore été forcément explorés.
Combien de donateurs actuellement dans le diocèse de Bayonne et quel est peut-être l'objectif que vous fixez ?
Alors, je ne sais pas si on peut se fixer véritablement un objectif, en tout cas un objectif de fidélisation et de croissance, mais actuellement, il y a 26 000 donateurs dans le diocèse de Bayonne, Lescarrieux-Luron.
Alors, ce qui change, et peut-être ceux qui nous écoutent, qui sont certainement de fidèles donateurs pour le denier de l'Église, ce qui change aussi, c'est la périodicité de la campagne. Jusqu'à présent, c'était plutôt en fin d'année. Souvent, les curés appelaient à donner le denier de l'Église au moment de Noël.
Voilà, alors, nous avons été contraints, pour nous ajuster sur toutes les comptabilités qui s'étalent généralement sur l'année civile, nous avons été contraints de changer en effet la périodicité, hein, du denier de l'Église. Jusqu'à présent, c'était de septembre à septembre, et nous avons été obligés de nous ajuster à tous les diocèses, mais aussi à toutes les comptabilités, hein, civiles et religieuses, qui évidemment commencent au 1er janvier. Alors c'est vrai qu'il va y avoir un temps de transition qui ne sera pas sans flou, peut-être, et sans confusion. La campagne de l'Église de 2009 a été très brève, de septembre à décembre, et tout de suite elle est suivie, dès le mois de février, de la campagne, du lancement de la campagne de 2010. Bien, donc c'est vrai que ça risque de provoquer quelques petits bouleversements. Pour l'instant, 2009, la campagne 2009 est bonne et ne nous a pas fait enregistrer de diminution catastrophique.
Avant de parler des rendez-vous importants à venir dans le diocèse et dans votre agenda, Mgr Marcaillier, revenons sur une date, celle du 23 janvier. Vous êtes allé à Bordeaux pour procéder à des ordinations de diacres et de sous-diacres, je crois. Certains médias s'en sont fait l'écho. Qu'en est-il ? Pourquoi étiez-vous à Bordeaux le 23 janvier ?
Alors, tout simplement parce que j'ai été invité par cet Institut du Bon Pasteur, qui, comme vous le savez, est une congrégation qui a été reconnue par le Saint-Siège, d'anciens lefévristes qui sont entrés dans la communion pleine et entière avec le Saint-Siège, qui est placé sous la juridiction à Bordeaux du cardinal Jean-Pierre Ricard. Et c'était évidemment en lien avec lui, qui est l'or ordinaire, que j'ai répondu à cette invitation de célébrer l'ordination d'un diacre et de trois sous-diacres. Alors j'insiste pour dire que j'ai accompli ce geste dans un esprit de communion, justement pour manifester la sollicitude de l'Église envers tous, quelle que soit leur sensibilité dans l'Église. Maintenant, il est bien évident que ça ne va pas plus loin. Hein. Je l'ai fait évidemment en pleine transparence et effectivement avec l'accord du cardinal Jean-Pierre Ricard, qui est leur ordinaire, et je n'ai pas du tout l'intention, en tout cas ce n'est pas du tout à l'ordre du jour, de faire venir l'Institut du Bon Pasteur dans le diocèse. Hein. Ce qui est sûr, c'est que j'ai voulu faire un acte de communion, de réconciliation, mais qui pour moi est tout à fait, j'allais dire, anecdotique par rapport à la mission qui est la mienne dans le diocèse. Et c'est évidemment pas ma première préoccupation. Je crois le montrer assez à travers mon emploi du temps. Et ce qui m'importe aujourd'hui, c'est vraiment d'aller à la rencontre de toutes les réalités du diocèse. Comme je le disais au début de cet entretien, j'ai axé tous mes efforts, en tout cas mes principaux efforts aujourd'hui, sur les visites pastorales du diocèse.
Parlons de l'avenir et des rendez-vous, des principaux rendez-vous du mois de mars. Est-ce que vous fêterez Saint-Léon à Bayonne début mars ?
Alors, je célébrerai la fête de Saint-Léon à la cathédrale et j'ai demandé au père abbé de Belloc, hein, dont Jacques d'Amestois, d'assurer la prédication. pour cet événement important, puisque c'est la fête patronale de la ville de Bayonne, évidemment, qui doit être célébrée comme chaque année à la cathédrale, le premier dimanche de mars.
Dans votre agenda bien, bien chargé, Monseigneur, et pendant cette période du mois de mars, et en particulier bien sûr du carême, quels sont les événements, les dates les plus marquantes ou les plus importantes qui effectivement peuvent concerner d'une manière ou d'une autre les fidèles du diocèse?
Alors évidemment, la célébration de l'appel décisif, tout le monde ne se déplacera pas, mais je pense que c'est important de s'y associer au moins par la prière et le désir de conversion qui nous anime tous pendant ce temps de carême, où j'accueillerai en vue du baptême les catéchumènes adultes de notre diocèse, le dimanche 21 février, premier dimanche de carême, donc à l'église Saint-Jacques-de-Pau. Je crois qu'il faut insister sur les veillées de la miséricorde aussi, le 17 mars, au soir, dans chacune des cathédrales du diocèse, donc Sainte-Marie de Bayonne, l'Escar et Oloron. Et puis, je pense qu'il faut insister aussi sur la messe chrismale, qui ouvre d'une certaine manière la semaine sainte avec les prêtres, mais aussi où le peuple de Dieu est largement convié, qui aura lieu cette année à la cathédrale Sainte-Marie d'Oloron, à 10h45, et au cours de laquelle vous savez que le Saint-Crème, l'huile des catéchumènes, l'huile des malades sont respectivement consacrés et bénis par l'évêque pour l'année qui vient, et où les prêtres sont invités à rénover les promesses de leur ordination presbytérale. Donc je crois ce moment très important de communion du presbytérium autour de l'évêque au service du peuple de Dieu.
Ce sera le lundi saint, donc à 10h45 à la cathédrale de Oloron.
Voilà, le lundi saint.
Il y aura aussi un rendez-vous juste.
Oui, alors il ne faut pas oublier en effet, évidemment c'est une chose qui est dans tous les esprits déjà, puisqu'on communique depuis un certain temps sur cet événement, c'est la journée mondiale de la jeunesse, les JMJ qui cette année sont vécues en diocèse, avant d'être vécues à Madrid autour du Saint-Père, l'année prochaine en 2011, mais cette année sera donc lieu le samedi veille des Rameaux,
27 mars,
donc à Saint-Jean-de-Luz cette année, à partir de 14h, donc le samedi après-midi, jusqu'à minuit. Donc une belle rencontre pour les jeunes lycéens et étudiants pour cette journée mondiale de la jeunesse.
La pastorale des jeunes est donc particulièrement mobilisée autour de la préparation de cette rencontre.
Alors évidemment, et même plus qu'autour de la préparation de cette rencontre, car vous savez que le service de la pastorale des jeunes dans le diocèse est en train de se constituer avec une équipe autour du délégué diocésain qui est l'abbé Jean-Paul Martinon et son adjoint qui est l'abbé Dominique Nalis, qui lui se trouve à Pau dans le Béarn, et que surtout le service diocésain pastoral des jeunes est en ordre de marche déjà par rapport au JMJ de Madrid en 2011, puisque nous avons été retenus, comme vous le savez déjà, comme diocèse d'accueil pour cette semaine qui précède les derniers jours qui sont célébrés par un festival des jeunes et de rencontres avec le Saint-Père à Madrid en août 2011.
Monseigneur Haillé, on ne peut pas conclure cette émission sans dire un mot de la nouvelle revue diocésaine, puisque le portrait du mois de février est consacré à votre personne. Le portrait se termine en disant « Monseigneur Haillé laisse toujours sa porte ouverte et est prêt à accueillir tout le monde ».
Oui, tout à fait. Alors c'est évident que cette formule est très bonne et je rappelle que je suis disponible pour accueillir quiconque demande à me voir et n'ait pas peur de pousser ma porte, de téléphoner à mon secrétariat pour essayer de me rencontrer. Je rencontre beaucoup de monde et je suis toujours désireux d'entendre, d'écouter, de répondre aux questions aussi, quelquefois, les interrogations que je sais pouvoir susciter, ce qui est bien normal. Et en tout cas, ma porte est toujours ouverte.
Ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup à Mgr Marc Haillé. Et merci également à Olivier Drapé, délégué épiscopal à l'information et à la communication. Merci.
Merci.
Shema Israël, Audi Israël, Écoute Israël, Ensun Israël, Escute Israël.
C'était la rencontre mensuelle avec notre évêque, Mgr Marc Haillé, évêques de Bayonne, Lescar et Oloron, une rencontre que vous pouvez écouter ou réécouter à partir du 19 février sur le site internet de la radio www.lapourdi.net.